Yann, bonjour Ramon, bonjour Rachel, Mona, Ocilia, Chantal, voilà. Qui d'autre? Je pense que c'est tout. Bonjour à Patricia aussi, Léandra et tous ceux qui nous regardent via la page web de l'Église. Alors prions pour commencer ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. Nous te demandons, Seigneur, de prendre contrôle de ce court moment que nous passons dans ta présence, à plonger nos regards dans ta parole. Instruis-nous, parle-nous, révèle-toi à nous. Et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on relit le texte qui nous sert de méditation depuis maintenant 47 jours. On en est à la 47e journée sur 50. On termine tout cela dimanche, donc on vous invite à être là aussi pour la prédication de dimanche. On ouvre dans Ésaïe au chapitre 61, le verset 1 et 2. Ésaïe 61, le verset 1 et 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Je répète cette dernière phrase, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alors que Dieu puisse bénir sa parole ce matin. Depuis le début de la semaine, on a revu certaines notions qu'on a déjà étudié à travers les dernières semaines, la question d'être mandaté, d'être envoyé pour publier, pour proclamer. Hier, on a étudié la question de l'année, cette année de grâce, donc savoir que la grâce est accessible de notre vivant, que plus les jours passent, moins il nous reste de temps pour faire nôtre la grâce que Christ nous a donnée, et que cette grâce, une fois qu'on la reçoit, elle est tout à fait admirable et suffisante pour cette vie, mais aussi elle continue son effet jusque dans l'éternité. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur le mot « grâce ». Il m'a envoyé pour publier une année de grâce. Et puisque ce terme se trouve dans l'Ancien Testament, ou ce passage se trouve dans l'Ancien Testament, le terme qui s'y rattache en hébreu, c'est le terme « ratson »,« ratson », qui s'écrit dans l'orthographe contemporain « R-A-T-S-O-W-N », je répète, « grâce », « R-A-T-S-O-W-N », et on le retrouve 56 fois dans le texte hébraïque, donc dans le texte de l'Ancien Testament. Ratson, 56 fois, R-A-T-S-O-W-N, je répète tout cela tout simplement pour les gens qui prennent des notes. Et on va voir 6 déclinaisons, 6 traductions contemporaines, on va dire, du terme ratson. Oui, ça parle de grâce, mais souvent le mot grâce est quelque chose qui est un peu abstrait. Donc, on utilise d'autres mots pour le définir un peu plus clairement. Et c'est l'ensemble de ce mot qui nous donne une définition plus précise de ce que représente donc le terme ratson, grâce. Alors, je vous énumère tout de suite les 6 mots. Comme ça, pour ceux qui prennent des notes, ce sera déjà fait. Le premier terme, favorable. Le deuxième terme, faveur. Le troisième terme, bonne volonté. Le quatrième terme, acceptation. Le cinquième terme, délice. Et le sixième terme, plaisir. Donc je répète, favorable, faveur, bonne volonté, acceptation, délice. Et plaisir. Pour chacun de ces mots, j'ai sorti une petite définition de quelques mots, 3-4 mots tout simplement pour illustrer la chose. Donc je vais vous les dire et après ça, à chacun des paliers, on prendra quelques minutes pour expliquer un peu mieux ce qu'on veut dire par ce terme. Donc grâce, ratson, 56 fois le premier terme, la première définition favorable. Donc, il m'a envoyé pour publier une année favorable de l'Éternel. Une année favorable de l'Éternel. Quand on parle de quelque chose qui est favorable, on parle de quelque chose qui est profitable pour le bénéficiaire. En fait, le Seigneur dit, voici ma grâce va te faire du bien. Ma grâce va t'être favorable. Dieu a envie de prendre soin de nous. Dieu a toujours eu à cœur de prendre soin de sa création. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, le verset qui nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, qu'il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, est encore tout à fait d'actualité. Le Seigneur fait en sorte que sa bonté puisse être accessible à tous et sa grâce est aussi disponible pour tous. Ça ne veut pas dire que tous vont en profiter, ça ne veut pas dire que tous vont se l'approprier, mais cette grâce est librement offerte à tous. Après ça, c'est une décision de chaque individu de se l'approprier, de faire sienne la grâce que Dieu veut accorder. Donc la première chose qu'on voit ce matin, c'est que Dieu veut faire des choses qui nous sont favorables. On a souvent cette image qui est véhiculée par la tradition où on représente Dieu un peu comme un père fouettard. Un père qui aurait un fouet, qui aurait une cravache, qui aurait, les plus anciens qui ont l'éducation française vont parler d'un martinet qui était une espèce de petit fouet avec plusieurs branches et qui servait pour la correction. Et de là vient l'expression « le père fouettard ». Donc très souvent, on a l'impression que Dieu, ou on véhicule l'image selon laquelle Dieu est là tout simplement pour punir et pour sanctionner. Le plan de Dieu initial, le plan de Dieu qui n'a toujours pas changé jusqu'à aujourd'hui, c'était de bénir sa création. C'était de prendre soin, juste une gorgée s'il vous plaît, c'était de prendre soin de nous comme étant son peuple et ses enfants. Le péché a fait en sorte que nous sommes séparés de Dieu. Le péché a fait en sorte que nous vivions hors de la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là est encore disponible pour nous tous. Et cette grâce-là est encore la volonté même de Dieu de nous bénir. Et cette grâce nous est favorable. En fait, il n'y a pas de meilleur endroit, il n'y a pas de meilleure vie que celle qui est passée sous la protection et sous la grâce même de Dieu. Donc Dieu, sache que Dieu veut prendre soin de toi, que Dieu veut t'accorder sa grâce, que c'est son désir le plus ardent. Donc favorable, donc qui est profitable pour le bénéficiaire. Deuxième mot, faveur, donc quelque chose qui est donné comme un cadeau à son bénéficiaire. La grâce de Dieu, tu ne peux pas la mériter. En fait, le terme même grâce, ça a dans sa définition quelque chose qui est donné gratuitement, quelque chose qui est donné sans espérer quoi que ce soit en retour, quelque chose qui est donné sans qu'on ne le mérite. Et c'est comme un cadeau. Lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, si c'est parce que la personne a fait quelque chose, c'est un peu comme une rétribution, c'est un peu comme un salaire, c'est un peu comme une rémunération. Alors qu'ici, lorsqu'on parle de la grâce, c'est donc quelque chose, un privilège, un cadeau, un présent que Dieu donne à l'homme, même si l'homme ne le mérite pas et même si l'homme ne peut pas le mériter. Cette grâce, cette faveur que Dieu nous fait, cette grâce qui nous permet de passer de l'état d'esclave à l'état d'homme libre, esclave du péché à homme libre, cette grâce qui nous permet de passer de la condamnation et de la peine qui est purgée par l'homme loin de la présence de Dieu, à être maintenant greffé à la famille de Dieu, à être appelé son fils, sa fille, à être membre du corps de Christ, tout cela, ce passage du péché à la vie, du passage du péché au salut, c'est une grâce, donc un cadeau qui nous est donné. Il est donné à son bénéficiaire. Encore là, comme tout cadeau, je pourrais venir chez vous aujourd'hui, si j'en avais le droit, sonner à la porte et vous dire « voici un cadeau ». Mais ce cadeau n'est votre propriété que si vous le recevez de mes mains, que si vous le prenez de mes mains. Et la grâce de Jésus est d'une même nature. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour nous l'accorder. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour nous la donner. Et encore là, faut-il que nous la prenions et nous la faisions nôtre. Une grâce présidentielle, lorsqu'un prisonnier a été incarcéré pendant un certain temps, et là, le président, que ce soit à son arrivée ou à son départ, décide de faire une grâce présidentielle, donc de changer, de commuer la peine du prisonnier, donc effacer sa peine. Ça encore, il faut que le prisonnier l'accepte. Le président pourrait dire, voilà, je pardonne sa peine et on le fait sortir. Mais si le prisonnier dit, non, je refuse la grâce qui m'est accordée, il reste en prison. Voilà un peu ce qui s'est passé aussi avec Paul lorsqu'on s'est rendu compte qu'il a été jugé injustement. Lui en a appelé aux tribunaux de Rome parce qu'il était citoyen romain. Alors, au lieu qu'on le laisse partir comme ça, lui a dit non, j'en appelle à Rome et je veux qu'on me juge dûment pour ce qui a été fait. Mais ce faisant, il a laissé de côté la possibilité d'être libéré, qu'il s'en aille. Donc, le processus judiciaire a continué. Lorsqu'on regarde dans Hébreux au chapitre 11, on va nous parler des gens qui ont refusé une bénédiction ici-bas sur terre et qui ont accepté la mort, donc ils sont morts comme des martyrs. Ils ont refusé d'être libérés de leur peine en sachant qu'il y avait une bénédiction plus grande qui venait après. Donc ces gens-là, on leur a proposé d'être sauvés, on leur a proposé de pouvoir vivre librement et eux ont refusé ce salut partiel, ont refusé cette peine qui était allégée en se disant on a quelque chose de plus. Donc la grâce de Dieu peut aussi être acceptée ou refusée, mais ça reste quand même quelque chose qui est donné par Dieu. Troisième point, bonne volonté. La grâce, elle est accordée selon la nature et le désir de son donateur. Dieu donne sa grâce parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est miséricordieux. Contrairement à l'image du père Fouettard qui est là tout simplement pour taper sur nos têtes aux moindres manquements, aux moindres erreurs et nous envoyer en enfer brûler pour l'éternité. La nature même de Dieu, ce n'était pas l'enfer. La nature même de Dieu, c'est le paradis, c'est le salut. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que lorsqu'un pécheur se repent, il y a une grande joie dans le ciel parce que Dieu se réjouit du salut qui a été reçu. Dieu se réjouit de la repentance qui a été vécue par un pécheur qui s'est détourné du péché et qui s'est tourné vers Dieu. Donc la nature même de Dieu fait que c'est un Dieu rempli de grâce. On nous dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est la nature gracieuse de Dieu. La nature de Dieu, c'est qu'il t'aime, c'est qu'il veut te bénir, c'est qu'il veut te sauver, c'est qu'il veut t'avoir avec lui pour l'éternité. Et lorsqu'il accorde sa grâce, c'est par sa bonne volonté. Et quand on parle de bonne volonté, on parle donc de la nature bonne, de la nature miséricordieuse de Dieu. Donc la grâce, qu'est-ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? La grâce est quelque chose qui est bénéficiaire ou profitable à celui qui la reçoit. La grâce est quelque chose qui est donné en cadeau, c'est une faveur que Dieu nous fait. C'est un présent non mérité qu'il nous accorde et c'est fait selon sa bonne volonté. Rappelons-nous le verset le plus célèbre peut-être dans nos églises protestantes ou évangéliques, Jean au chapitre 3, le verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé l'humain, car Dieu a tant aimé l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné le Sauveur, Dieu a donné le Messie, Dieu a donné l'agneau de Dieu, celui qui a payé pour nos fautes, à cause de l'amour qu'il avait envers le genre humain, envers toi et envers moi. À cause de sa bonne volonté, Dieu a accordé son Fils comme Sauveur de l'humanité. Quatrième terme, acceptation. Acceptation, quatrième terme. La grâce qui se manifeste dans la vie d'un croyant, la grâce qui est effective dans la vie d'un pécheur transformé, c'est un signe et c'est la conséquence de l'appartenance à Christ. D'être gentil, c'est pas un signe nécessairement que Christ est en nous. D'être bon n'est pas nécessairement un signe que Christ vit en nous. Le fait d'être généreux, le fait de faire de bonnes actions n'est pas nécessairement un signe que Christ vit en nous. Le signe que Christ vit en nous est un signe spirituel et le signe qui démontre que nous étions pécheurs et que nous avons été graciés par Dieu. Donc cette grâce, cette rémission de nos péchés, ce pardon de nos fautes, est non seulement un signe, mais une conséquence aussi de la présence de Christ dans nos vies. Ça veut donc dire que lorsque je viens à Dieu, lorsque je me repens, lorsque je confesse qu'effectivement je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur, et lorsque je confesse effectivement que le seul sauveur qui puisse, et là je vais dire quelque chose qui est redondant, le seul sauveur qui puisse me sauver est effectivement Jésus, mort et ressuscité à la croix, lorsque je prononce ces mots avec toute la véracité qu'ils ont dans ma vie, avec toute l'honnêteté de mes propos, à ce moment-là, la grâce de Dieu se manifeste dans ma vie et cette grâce-là est un signe et est une conséquence de ma repentance et de mon appartenance à Christ. Et voilà pourquoi, lorsque le diable veut venir nous accuser, il y a la clause de la grâce qui vient être élevée par notre avocat Christ, qui dit « Cet homme-là a été racheté par mon sang, cet homme-là a bénéficié de ma grâce, cet homme-là a pris pour lui la grâce que je lui ai offerte. » Je dis « homme » tout simplement pour généraliser, mais bien entendu, la grâce est aussi accessible aux dames, et je sais que vous êtes nombreuses ce matin. Donc, quatrième terme, acceptation, signe et conséquence de l'appartenance à Christ. Je ne peux pas appartenir à Christ sans avoir vécu la grâce. Je ne peux pas appartenir à Christ sans vivre sous la grâce. Je ne peux pas appartenir à Christ sans vivre une vie qui honore la grâce qui m'a été faite. On a déjà eu à expliquer à travers les dernières journées que lorsqu'on a bénéficié de la grâce de Jésus, on va avoir une transformation qui va se passer, il y a un changement qui va survenir, un peu comme lorsqu'un privilège t'a été accordé, alors que tu es prisonnier et qu'on te dit « on sait que tu as fait mal, on sait que tu es coupable et on sait que tu mérites de purger cette peine, mais on décide, nonobstant qui tu es, nonobstant ce que tu as fait, on décide de changer cette peine en grâce et alors on te libère. » La personne qui reçoit cette grâce va être ad vitam aeternam pour le restant de sa vie, redevable à celui qui l'a gracié et va vivre la plupart du temps en honorant la personne qui lui a accordé grâce. Lorsqu'on pense à notre vie spirituelle et à notre statut de racheté, d'enfant de Dieu, de greffé à la famille de Dieu, de fils et de fille du roi des rois, notre vie devrait manifester cette même reconnaissance envers la grâce qui nous a été donnée et envers cette grâce qui s'est manifestée lorsque nous sommes venus à Christ. Deux mots, deux derniers mots qui se ressemblent, délice et plaisir. Lorsqu'on parle de la grâce de l'Éternel, une des traductions qu'on va avoir parfois, c'est le mot délice. la définition que je vous en donnerai pour le contexte de ce passage, c'est donc la satisfaction de Dieu face à la restauration du racheté. Pour Dieu, sa grâce est un délice. Pourquoi? Parce que sa grâce vient, comme on l'a dit tout à l'heure, être un signe. Sa grâce vient être la conséquence de la repentance d'un pécheur. Donc Dieu prend plaisir, Dieu est satisfait de l'œuvre de la grâce dans la vie de ses enfants. Lorsqu'il voit son enfant qui était dans le péché, qui s'est repenti et qui maintenant est délivré du péché, délivré de la condamnation et qu'il vit une vie pour lui ici-bas sur terre, Dieu en est satisfait. Et c'est cette satisfaction-là va s'entendre lorsque le fils ou la fille de Dieu se présente pour l'éternité devant son Seigneur. Rappelons-nous la phrase qui nous attend lorsque nous pénétrons dans l'éternité en tant qu'enfants de Dieu. La phrase qui nous attend est la suivante. « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Bon et fidèle serviteur. Il y a un niveau de satisfaction. Il y a une joie, il y a un plaisir qui se manifeste de Dieu par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de ce pécheur, transformé par la grâce, mué par la grâce, reformaté par la grâce, refaçonné par la grâce. Et voilà pourquoi il est tellement important de vivre sous la grâce de Dieu qui se renouvelle matin après matin, de revenir à cette grâce qui nous façonne, qui nous remodèle, qui nous transforme jour après jour. Et être toujours sous ce processus de la grâce qui fait que je suis encore plus un délice pour Dieu, qui fait en sorte que ma vie est encore plus agréable pour Dieu. Donc lorsqu'on parle de délice, on parle de ce côté agréable, de ce côté satisfaction que Dieu ressent lorsqu'il voit la restauration qui s'accomplit suite à la grâce dans ta vie et dans ma vie. Dernier point, le terme plaisir qui ressemble à la satisfaction, mais qui va dans quelque chose d'un peu plus exultant. On parle de plaisir lorsqu'on parle de joie. Donc la grâce de Dieu, voir la grâce de Dieu qui se manifeste dans nos vies, amène de la joie pour Dieu. Le verset que je vous ai donné tout à l'heure, en disant que pour un pécheur repentant, il y a une grande joie dans les cieux. Ça veut dire que le jour où moi je suis venu à Jésus en lui disant « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que je mérite la condamnation, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes iniquités et je te reçois toi comme l'unique sauveur qui a été donné pour le salut de l'humanité. Je te reconnais comme mon sauveur. » Je te reconnais comme mon Seigneur. Et en faisant cela, ça suscite une joie au ciel. Le jour où moi je me suis converti, le jour où moi je me suis tourné vers Dieu, il y avait de la joie au ciel. Le jour où toi tu t'es tourné vers Dieu, il y a de la joie au ciel. Si tu t'es éloigné du Seigneur, mais tu en es revenu, si tu as tourné le dos, et je pourrais vous parler de ma propre histoire. J'ai dit au Seigneur à un moment donné, « Regarde mon dos parce que c'est la dernière chose que tu vois de moi. Je m'en vais. » Et j'ai délibérément délaissé le Seigneur. J'aurai l'occasion une autre fois de vous raconter cette histoire. Mais à un moment donné, à l'été 89, au mois de juillet ou août 89, Dieu a transformé ma vie. Dieu a changé le cours de ma vie. Et ce jour-là, où je suis revenu de façon radicale dans les voies de Dieu en reconnaissant que j'avais besoin d'être sauvé et que je m'abandonnais à lui. Cette fois-là, il y a encore eu de la joie au ciel. Donc, si toi, tu t'es éloigné de Dieu aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu attend de se réjouir à cause de toi, pour toi et avec toi. Il y a encore possibilité de revenir à Christ, tout simplement en demandant pardon pour l'égarement qui a été le tien, en demandant pardon pour les fautes que tu as allé commettre et en donnant une fois de plus ta vie au Seigneur pour qu'il en soit le maître, qu'il en soit le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que la grâce nous est favorable. La grâce est profitable pour nous qui en sommes les bénéficiaires. On a vu que la grâce est une faveur, est un cadeau, est un présent que Dieu veut nous donner. La libération du péché, c'est un cadeau que Dieu veut te donner. La libération de ta condamnation, de ta culpabilité, Dieu veut te donner ce cadeau. Et il donne ce cadeau parce que c'est sa nature d'être bon. C'est sa nature d'avoir ce désir de sauver la race humaine et ses créatures. La grâce est aussi un signe, est aussi la conséquence de notre appartenance à Christ. La grâce se manifeste dans ma vie lorsque je viens à Christ en lui confessant mon péché et en recevant son pardon. La grâce, c'est la satisfaction de Dieu par rapport à la vie restaurée du racheté et à la vie restaurée de celui qui s'était éloigné et qui revient dans la bergerie. La grâce aussi est une source de plaisir, une source de délice, mais une source de plaisir, de joie pour Dieu. Et je prie effectivement qu'aujourd'hui, tu retournes à Jésus et qu'il y ait une grande joie dans le ciel à cause de ton retour à Christ. Amen. Alors, on va s'arrêter là ce matin. Simplement, priez pour chacun de vous et après ça, je saluerai quelques personnes qui se sont joints en cours de route à nous. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette grâce que nul d'entre nous ne pouvait mériter, mais qui nous est donnée parce que tu nous aimes. Merci pour cette grâce, Seigneur, qui pardonne nos fautes et qui scelle notre appartenance au corps de Christ. Et à chaque fois que l'ennemi voudrait venir nous accuser d'une chose ou d'une autre, c'est toi, notre avocat, qui élève la carte de la grâce et qui dit « Cet homme, cette femme a été racheté par le sang que j'ai versé à la croix et il a bénéficié de la grâce du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. » Merci Seigneur parce que même lorsqu'on s'est éloigné de toi, il est encore possible de revenir. Alors je prie Seigneur pour nos amis ce matin, nos frères, nos sœurs qui auraient dévié de leur voie, qui auraient abandonné ton chemin, qui t'auraient peut-être même tourné le dos, qu'aujourd'hui, Seigneur, alors qu'ils entendent mes paroles, ils prennent cette décision et ils marquent cette décision officiellement avec toi, en confessant leurs péchés, en te demandant pardon et en recevant ton pardon et en te proclamant comme le Maître, seul et unique Maître, Seigneur, seul et unique Seigneur et Sauveur, seul et unique Sauveur de leur vie. Alors je prie, Seigneur, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du plaisir au ciel pour la vie de cet ami qui se tourne vers toi aujourd'hui, pour la vie de ce frère et de cette sœur qui reviennent à toi ce matin. Que ta grâce, Seigneur, abonde et surabonde dans nos vies. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, voyons voir quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Je remonte un peu. Voilà. Alors, bonjour à Yaoi. Bonjour à Templus. Bonjour à Julie. Bonjour à Tatiana. Bonjour à Maggie, bonjour à Soraya, Benjamin et aux enfants, bonjour à Sony, bonjour à Lynn, ta maman est une fidèle parmi nous, on est content de t'avoir avec nous aussi Lynn, sois bénie. Bonjour Babette, bonjour Andreas, bonjour à Aneris, bonjour à la sœur Susana et à son époux, bonjour à Marcelo, bonjour à Marie-Huguette, bonjour à Jocelyne et à Jacques. Bonjour à Rosie. Et je crois que c'est tout. Alors, soyez richement bénis les uns et les autres. On vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain matin pour la dernière bénédiction de la semaine. Ça sera aussi la dernière bénédiction matinale de cette série d'enseignements sur ce passage. Donc, on vous invite à être là. Ça va être un peu d'enseignement pour un dernier mot à étudier demain matin, mais ce sera aussi un temps de prière. Demain, c'est notre journée de jeûne et de prière. Donc, tous ceux qui veulent se joindre à nous dans le jeûne et dans la prière, vous êtes bien entendu les bienvenus. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix que vous prenez. On a décrété que le vendredi était une journée de jeûne et de prière pour l'Église depuis déjà plusieurs mois. Donc, ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, vous êtes invités à prendre ce temps avec nous. Deux sessions demain matin, Donc, demain matin à 8h30, la bénédiction matinale. Et on se retrouve vers 19h pour clore la journée avec un temps de prière, d'intercession, un temps de requête. Et on présente vos besoins en direct dans la prière. Donc, on vous invite à être là. Sur ce, passez une bonne journée. Et j'espère qu'il y a de la grande joie au ciel, même suite à ce petit moment et à cette petite prière qu'on a faite tous ensemble. Que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve demain. Au revoir tout le monde.